j'ai rencontré Guillaume Poix avec mes élèves lundi 21 février 2022 dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire. La quatrième de couverture présente ainsi son œuvre. Là d'où je viens, a disparu. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas revue. 723 jours pour être précise. Il y a 1 mois, j'ai reçu une lettre de lui en provenance des États-Unis. Il m'indiquait qu'il avait fui notre pays et qu'il travaillait dans une entreprise de bâtiment. Il allait bien, il écrirait de temps en temps. Il me souhaitait du calme maintenant qu'on ne se reverrait plus. J'ai brûlé la lettre et j'ai regardé mon fils aîné partir en fumée. Inspiré de faits réels, ce roman choral explore des rêves d'exil, accomplis ou à jamais manqués. D'un continent à l'autre, des familles dispersées affrontent la même incertitude. Que transmet-on à ces enfants qu'aucune frontière ne peut effacer? La première question que mes élèves ont posée est celle des origines.
Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire?
J'ai commencé à écrire ce livre en juin 2019, après la publication dans la presse d'une photographie dont le livre raconte à la fois la genèse et puis le livre est comme pris en étau par deux photographies, la photographie d'Aylan Kurdi qui ouvre le premier chapitre du livre, et puis après, inexorablement, le livre et la fiction va vers une autre photographie de l'actualité, une photographie véridique qui est la photographie de ce père salvadorien et de sa fille de 23 mois qui ont été retrouvés noyés dans le Rio Grande. Et cette photographie, quand elle a été publiée dans la presse fin juin 2019, elle m'a beaucoup marqué, sans doute plus que pour des raisons qui me sont intimes, quelque chose du lien d'un père avec sa fille, parce qu'il se trouve que j'ai une fille et qui a l'âge exact de cet enfant. Donc au-delà du fait que, évidemment, que ça n'est, je ne peux pas me projeter dans cette photographie puisque ma vie n'a rien à voir avec celle d'un salvadorien, je ne peux pas prétendre avoir un contexte de vie proche du leur, Dieu merci. Pour autant, il y a quelque chose du soin d'un père pour sa fille et puis d'une vie gâchée aussi jeune qui m'a, je pense, particulièrement émue, scandalisée. Et comme l'écriture naît dans mon cas souvent d'un élan de scandale, enfin de quelque chose qui me choque profondément, qui me scandalise, qui mobilise en moi une énergie suffisamment importante pour que je puisse avoir de la hargne pour écrire. Cette photographie, je n'ai pas réussi à l'oublier, et à partir du moment où elle s'est infiltrée en moi, elle m'a hanté, je me suis dit que j'avais le désir fort de faire de la fiction à partir de cette photographie et de réanimer ces deux corps par l'écriture, faire en sorte que ce père et sa fille aient un tombeau quelque part, pas uniquement un tombeau médiatique, pas un tombeau dans des articles qui seraient dupliqués sur les réseaux sociaux à l'infini, avec toute l'obscénité que ça peut comporter de diffuser cette photographie jusqu'à l'écœurement, mais plutôt un tombeau littéraire, en me disant il faut que ces deux vies-là comptent quelque part. Donc l'impulsion du livre, elle est là. Et donc après, pendant 1 an, j'ai écrit ce livre entre juin 2019 et juin 2020. Il est sorti en septembre 2020. J'ai écrit ce livre et à partir de l'histoire salvadorienne, après, le livre s'est peuplé d'autres parcours et d'autres personnages qui sont venus croître donner au livre une ampleur un peu plus importante sur la question migratoire.
Mes élèves avaient préparé une lecture d'un passage dans lequel un personnage se rend compte que son fils fait partie de générations identitaires.
Il est midi et demi. J'ai rendez-vous à 13h à la Croix-Rousse, rue Calas, pour faire visiter un charmant deux pièces de 42 mètres carrés, 4e étage, sur jardin. Coup de cœur absolu à visiter d'urgence. Comme je l'ai indiqué sur l'annonce, les points d'exclamation, c'est un code. Les clients que je suis depuis un petit moment savent que le nombre en dit long sur le bien. 3 points d'exclamation, c'est pour grouillez-vous. Le bien est rare, ça va partir direct. 4 visites prévues, lumineux, calme, bien agencé. Je sais que les ouzes ont intérêt à avoir leur dossier complet avec eux.
Grande opération menée dans les Alpes.
Je suis branché sur les grandes gueules.
Point stratégique de passage des migrants clandestins qui viennent en France.
J'aime moins que le super moscato show, mais ça s'écoute.
On a décidé, nous, mouvement politique de jeunesse, de rassembler nos forces.
Bon là, ils font chier avec l'interview interminable d'un jeune mec qui a fait je sais pas quoi sur un col de montagne.
rentrer au pouvoir public qu'avec un petit peu de volonté et des moyens. Quand même relativement sommaires, il est possible de reprendre le contrôle de nos frontières.
Ça bouchonne sur les quais, putain.
Empêcher les clandestins de rentrer dans notre pays.
Je suis distrait par le trafic, mais je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne.
Ils prennent des risques, ils traversent la Méditerranée, il y a des milliers de morts. Il y a des drames, même ici, quand des femmes, des enfants essaient de traverser ce col.
On dirait que mon duster est pas stable, je crois pas avoir crevé pourtant.
Donc la vraie sécurité, c'est de les aider chez eux et pas ici en Europe.
Pourquoi ça tangue ?
Politique qui a été développée en Australie.
Presque l'impression que le jeune gars qui parle est assis à côté de moi, à la place du mort.
La politique du no way.
Qu'il me murmure son laïus à l'oreille sur un timbre familier.
Des moyens forts pour dire aux migrants illégaux.
Putain.
Plus possible de rentrer.
Dites-moi que je délire. Pitié. Pas ça, putain.
Plus aucun mort en mer.
Pas lui, c'est pas possible. Je rêve, j'hallucine. Dites-moi que j'hallucine.
L'immigration a cessé.
Mais qu'est-ce qui est fou, ce fils de pute?
Une bonne chose pour les deux côtés.
Mon cœur cadence à 8000. Main moite, brusque suée, je suis en train de tremper ma chemise bleu ciel, auréolée aux aisselles comme jamais. Je me gare sur la voie de bus, à cheval sur le trottoir, je monte le son, ça hurle dans le duster. Toute la ville entend cette voix à cause de la caisse qui résonne de partout. On l'entend jusqu'à Grange Blanche, jusqu'à Fourvière et Confluence. Ça prend tout l'espace, on l'entend au-delà des Alpes, sur les sommets. On l'entend dans le monde entier. Je sens les regards sur moi. Les regards des passants. Les cyclistes qui m'insultent parce que je leur bouche le chemin. Le regard exaspéré du chauffeur de bus qui me klaxonne et que j'ose pas jeter dans le rétroviseur pendant que le flux radiophonique persiste en diffusant la fréquence d'une voix qui est celle de mon fils,
Jérémy.
Agréablement surpris et bien reçu par les habitants.
Jérémy qui a sucé son pouce jusqu'à l'âge de 7 ans.
Marche leur vallée soit connue comme une vitrine de l'immigration clandestine en France.
Jérémy qui refusait qu'on ferme la porte quand on le couchait, qui voulait tout le temps regarder Aladdin. Jérémy qui osait pas se lancer sans roulette en VTT, qui traînait Monsieur Doudou Monton partout.
Jérémy qui me regardait la bouche ouverte quand je lui racontais mes souvenirs d'enfance en Balagne, à ramasser les olives, presser l'huile et traire les brebis du cousin Dumé.
Jérémy à qui j'avais promis de l'emmener aux États-Unis sans jamais le faire. Mon fils qui est en train de déblatérer sur RMC. Mon fils qui a demandé à disposer de l'appart de Val d'Isère le week-end dernier. Mon fils qui a programmé sa petite expédition punitive en douce, sans rien me dire, et qui fait maintenant partie d'un groupuscule dont le seul nom me...
Certains nous ont même apporté des mots de soutien, et d'autres carrément de l'eau, de la nourriture, pour pouvoir rester et tenir.
Ben voyons, faudrait pas que vous veniez à manquer.
Je pianote sur mon smartphone, je vais sur le site de RMC, je lance la vidéo du direct, ça met un putain de temps à charger et les pubs qui me proposent une Mercedes ou un nouveau parfum Dior pour une femme avec la gueule, les nibards et les hanches de l'actrice à laquelle il m'arrive de penser pour doper mes branlettes dans les toilettes de l'agence, les images arrivent enfin, couperet, bombe, explosion dans le thorax, il y a une photo de lui en doudoune bleue, son prénom et son nom en surimpression. Le nom que je lui ai transmis, le prénom que je lui ai donné après des semaines de lutte avec Hélène, qui préférait Guillaume à Jérémy.
Les réactions peuvent être violentes à notre égard, mais c'est normal, parce que notre action est pertinente, elle est juste.
Mes épaules se crispent, j'écoute religieusement. Ma mâchoire se serre tellement que mes dents pourraient se déchausser.
Je pense à Hélène, je pense à sa réaction quand elle va le savoir. Est-ce qu'elle le sait déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, on l'a vu en travaillant sur cet extrait, et vous venez de nous le dire, vous travaillez avec l'actualité.
Ouais.
Et comment est-ce que vous allez chercher vos sources et comment est-ce que vous arrivez à inscrire de la fiction dans les...
C'est vraiment tout l'enjeu, c'est une super question. C'est vrai que moi, j'aime travailler avec le présent. Enfin, je veux dire, ce qui me met en jeu, en vie, ce qui m'inquiète profondément, ce qui m'excite, c'est le présent, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et pour moi, la littérature contemporaine, elle doit aussi rendre compte de notre présent, de l'aventure collective qu'on traverse ensemble, pour rendre compte de quelque chose qu'on vit. Je me documente comme tout citoyen, c'est-à-dire par la presse, alors je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas une connaissance du monde via les réseaux sociaux, ce qu'on peut considérer comme un énorme manque. Enfin, j'ai bien conscience que c'est aussi un manque par rapport à ce qui se passe et ce qui se joue dans l'espace médiatique collectif. Pour autant, c'est un médium qui m'est un peu étranger. Pourtant, j'ai 35 ans, donc je peux quand même être d'une génération qui est capable de manier ces outils, mais pour autant, ces outils-là, je les manie pas très bien pour mille raisons. que d'ailleurs Raphaël explique un petit peu dans le livre, c'est une parenthèse. Et donc je me documente par la presse, par des documentaires, par des enquêtes, par des articles, par des reportages, par des livres. Donc j'essaye de faire une recherche comme n'importe quel citoyen, c'est-à-dire c'est un travail infini, une arborescence continue, c'est-à-dire qu'on commence à lire un article sur Génération. Il se trouve que Génération Identitaire, pour préciser un petit peu, moi je viens de Lyon, moi je suis allé à l'Institution des Chartreux, le lycée dans lequel Jérémy va et dans lequel travaille Hélène, donc j'ai eu un ancrage sociologique et politique familial proche de celui que Jérémy connaît. Il y a dans ma famille, je pense, une histoire avec l'extrême droite, dans mes ascendants. Et à Lyon, l'extrême droite, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, important au sens, c'est un phénomène politique historiquement vraiment situé. Génération Identitaire était basée à Lyon, le siège était à Lyon. Donc c'est vraiment une organisation politique et une tradition politique qui est très lyonnaise. Donc moi, j'ai croisé des gens pendant ma scolarité qui sont devenus membres de Génération Identitaire. J'ai eu des amis qui après ont connu des engagements d'extrême droite qui sont opposé au mien politiquement, et ça je voulais travailler là-dessus pour essayer de comprendre comment la notion d'étranger, elle n'est pas uniquement dans ceux qu'on nous désigne comme venant d'un autre pays, mais comme ceux qui sont au fond nos prochains, nos proches. Ça m'intéressait beaucoup d'interroger cette notion d'étranger. Et donc la documentation sur Génération Identitaire, c'est pour le coup consulter en permanence le fil Twitter des différents... J'ai pas de compte moi-même, mais on peut aller voir le fil Twitter des différents membres, compiler tous les articles de presse, aller sur le site, un peu jusqu'à la nausée aussi, parce que véhiculer, disons, des choses que je trouvais révoltantes, mais c'était passionnant à observer pour essayer d'aller à la source même de la manière dont eux-mêmes se donnent à voir. C'est-à-dire, parce que bon, il n'y a plus Génération Identitaire, mais Génération Zemmour, il y a des passerelles, enfin, je veux dire, il y a évidemment des passerelles entre ces organisations politiques de jeunesse qui militent à l'extrême droite, et c'est aussi des organisations qui c'est ce que découvre Jérémy quand il arrive dans le local, une maîtrise des codes d'aujourd'hui, des codes médiatiques, des codes esthétiques, des codes sociaux énormes. Et ça m'intéressait beaucoup d'en parler. Donc la documentation, elle se fait de manière un peu vorace et constante pendant tout le travail d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps qui serait dévolu à la documentation, puis après un temps à l'écriture, c'est vraiment tout le temps entremêlé. Et précisément, la documentation vient percuter l'écriture et parfois la réoriente, c'est-à-dire que tout à coup, il se passe quelque chose, je découvre autre chose dans ma documentation, et donc là, ça me remet en mouvement et je me dis « Ah, en fait ça, je vais pouvoir m'en servir, ça va me donner un cadre ou ça va me donner un événement ». À un épisode de l'histoire. Et après, la fiction, c'est comme une intériorisation des enjeux des personnages, c'est-à-dire à partir de ce cadre extérieur qui serait la documentation du monde réel, Génération Identitaire, la photographie du Salvador, les deux femmes de ménage dans le complexe de golf de Donald Trump. À partir de ces faits réels, c'est essayer de me projeter par un travail d'empathie, par un travail d'intuition, par un travail de rêverie sur comment je peux prêter à ces surfaces, qui ne sont que des surfaces pour moi, des photographies, des flux, comment je peux prêter trois dimensions, quoi. Comment tout à coup je peux commencer à peupler ces surfaces de toute une chair, d'un plein, qui font que tout à coup ces vies-là s'incarnent vraiment. Et quand on commence à se dire, tiens, cette personne de Génération Identitaire, ce jeune homme dont je suis le fil Twitter, il a des parents, il a fait des études, il a un métier, il a des amis, il a une sociabilité, comment il en est arrivé là. À partir du moment où on commence à enquêter de manière empathique sur l'humanité qui est derrière chacun des visages qu'on a comme pris comme totem, pour se dire je vais m'inspirer de tous ces personnages-là, c'est là que le travail de fiction arrive et c'est là qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui prend le dessus.
Une de mes élèves, sans doute émue, a posé une deuxième fois la même question. Mais elle a changé un mot à cette question et dit « vrai ».
Non, mais je peux... C'est ce que vous posez, la question du vrai, et elle est capitale, la question du vrai, dans un roman. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que ça veut dire vrai, et on voit bien que la question du vrai, précisément pour Génération Identitaire et pour ces mouvements de jeunesse politique, en grande partie à l'extrême droite, la question du vrai, du fait, elle est la question la plus cruciale politiquement aujourd'hui. C'est celle qui est en fait l'enjeu même de la campagne présidentielle, ça va être la question du vrai aussi. Qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui est un fait? Ce que Trump a réussi à, disons, pulvériser pendant sa campagne présidentielle, c'est cette notion-là de vrai. C'est que peu importe la notion de vrai, peu importe la notion de fait, ce n'est plus ça qui est opérant, ce n'est plus ça qui produit une adhésion. Après, comme c'était les balises, le vrai, c'était les balises du roman, pour moi, ça, c'était fondamental précisément pour susciter un effet de réel, indépendamment du travail sur la fiction que je faisais. Donc, c'était fondamental que la trame soit vraie pour que le lecteur ait l'impression de dialoguer au présent avec son époque et de dialoguer au présent, non pas avec quelque chose qui pourrait arriver ou qui ressemble à ce qui est arrivé, mais quelque chose qui est arrivé, et que son travail-là, ce ne soit pas tant de réfléchir à la véracité des faits que de réfléchir à l'humanité des personnages. Comment ces personnages-là traversent ces faits qui sont avérés. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'inspire. C'est souvent quand il y a une catastrophe, quelque chose... la jeune fille qui a été hier, la jeune fille de 25 ans qui a été hier abattue par une chasseuse de 17 ans. Tout à coup, c'est des événements tellement forts, tellement dérangeants, tellement tragiques. Tout à coup, ce qui est intéressant, c'est de se demander, indépendamment de ce fait-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive là? Qu'est-ce que c'est la vie de ces deux femmes? Qu'est-ce qui les a mis sur le même chemin ce jour-là? Tout ça, pour moi, ça c'est le travail que je trouve le plus passionnant. C'est une fois que la véracité des choses est posée, comment les gens vivent, comment les gens ont vécu, comment les gens survivent à tout ça. C'est ça qui m'intéresse vraiment, parce que c'est la vie, quoi. C'est comment on vit.
En l'écoutant ainsi parler, je repensais que l'intellectualisme est un humanisme. Et j'étais heureuse que mes élèves entendent cet humanisme. À la semaine prochaine pour la suite de la rencontre avec Guillaume Poix, auteur de « Là d'où je viens a disparu ».